Voilà, nous continuons notre série sur Béréen l'explorateur. On s'était arrêté à Exode 19, quand Dieu demande à ce que le peuple se réunisse au bas de la montagne pour entendre sa voix. Et il dit bien qu'il fallait se sanctifier pour écouter, entendre sa voix. C'était du sérieux et que la personne qui n'était pas sanctifiée pouvait mourir. Et aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas prise au sérieux tel que ça devait l'être. Quand Dieu parle, c'est du sérieux. Et donc, dans Exode 19, vers la fin, le Seigneur insiste là-dessus et il leur dit qu'il va leur parler. Donc, nous allons attaquer le chapitre 20. Alors, comme nous sommes dans l'exploration de la Bible, il faut savoir une chose, c'est que il n'y a que deux personnes qui ont reçu la parole de Dieu, Moïse et Jésus. Tout le reste, nous sommes que des perroquets qui répétons ce que ces deux-là ont réussi. C'est pourquoi les Juifs, pour eux, c'était très important de ne pas toucher à Moïse. Vous voyez, donc le plus grand problème qu'on a créé à Jésus, c'est à chaque fois on l'accusait d'attaquer Moïse. Même Paul, on voit même dans Actes des Apôtres, chapitre 21, Jacques lui dit, le bruit s'est répandu que tu es contre Moïse. Donc on ne touche pas à Moïse, parce que c'est Moïse qui a reçu la parole. Les Élie, ils ont fait des miracles, tous ces gens-là, ils ont fait des choses, mais Moïse est celui qui a reçu le message de Dieu, la parole. Ce n'est pas juste un message du genre « je t'aime, tu es mon peuple ». C'est vraiment qu'est-ce qui est Dieu. Dans ce message-là, il y a la description de Dieu lui-même. Dans ce message, il y a la description de la volonté de Dieu pour l'humanité. Dans ce message, il y a l'avenir de l'humanité. Donc, c'est un message, je dirais, complet. Puisque dans le message de Moïse, il y avait aussi le renseignement sur la venue du Messie. Donc, c'est un message complet. Donc, il y a deux personnes. Et d'ailleurs, on le voit bien dans Jean 1, 17, c'est expliqué. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, on met Jésus en comparaison avec Moïse. Parce que Moïse a reçu la parole et Jésus aussi a reçu la parole. Et Jean explique que la parole que Jésus amène, c'est la parole complète, totale. C'est la grâce et la vérité. Il finalise tout. Donc comprenons que là, nous sommes en train de vivre un instant très important où Dieu va donner sa parole à Moïse. C'est un instant très important pour les Juifs. C'est un instant très important pour nous chrétiens. Lire Exode 20, c'est une grâce. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez que les lois du monde entier ont triché, ont profité d'Exode 20 pour tout ce qui est « tu ne voleras pas dans nos codes pénal, civil », tout ça. Ces lois-là, mes amis qui ont fait le droit, nous disaient qu'ils étudiaient en droit, que le droit a pris sur les lois de Moïse pour élaborer certains articles. Et ensuite, les organismes de charité, de non-violence, de bienfaisance qu'on connaît à notre époque, la plupart ont pris sur Jésus lui-même par rapport à l'amour. Mais donc ces deux personnes-là sont les grandes fondations de l'humanité, c'est Moïse et Jésus. Donc, parce que c'est par eux que Dieu donne la parole. Là, nous assistons à Dieu qui donne la parole et au peuple en présence de Moïse. Mais le peuple, comme on va le voir, va préférer fuir, va refuser de continuer et que Moïse seul entende. Donc, c'est très important ces instants-là que nous vivons, de Exode 20 où Dieu donne sa parole. Et je voulais dire qu'on soit attentif à la profondeur spirituelle. C'est pourquoi nous, justement, on s'appelle les Béréens explorateurs, nous voulons aller plus loin qu'une lecture simple. Donc nous commençons en lisant donc Exode chapitre 20. Donc Dieu va donner sa loi, donc c'est ça l'introduction. Exode 19, Dieu prévient qu'il va donner ses commandements. Exode 20, il commence à les donner. Exode 20, 1 à 2. Introduction.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Voilà, voilà l'introduction. Dieu, pour se révéler à son peuple, lui donner son message, lui donner sa loi, il commence par présenter le lien qui l'unit à ce peuple-là. Il dit, je suis celui qui vous a délivré. Donc l'alliance, la révélation commence par un lien de délivrance. Et c'est moi qui vous ai délivré. Donc sous-entendu, vous étiez perdus. Vous étiez des esclaves. Vous étiez en position difficile. C'est moi qui vous ai sorti de cette position-là. C'est ça le départ. Contrairement à un autre monsieur, à un autre peuple, c'était Adam. Adam, quand il connaît Dieu, c'est directement dans la jouissance, dans la grandeur. Tout est là pour lui. On se souvient, Adam a été créé le 40e jour, le lecteur de la Bible, le 4e ou le 3e. Adam, oui, sœur Rebecca, le 4e. Pardon? Non, je ne t'entends pas bien. Ah, 6e. Donc, qu'est-ce qui suit la création d'Adam? Le repos. Tout est fini. Donc, Adam, quand il vient dans le circuit, tout est là. Donc, il se prend pour quelqu'un. C'est ainsi que, d'ailleurs, hier, on en discutait avec certains bien-aimés des écoles que font certains enfants dans d'autres pays et qu'on fait d'ailleurs certains d'entre nous, hein, il y a des gens qui ont fait 7 kilomètres pour aller à l'école, 2 heures de marche. Il y a des gens qui prennent 3 transports pour aller à l'école, bateau, marche et autre chose encore, en descendant de collines vertigineuses. Et ces gens-là ont pris au sérieux l'école. Parce que après, quand ils ont eu le diplôme, quand ils apprenaient l'alphabet, ils apprenaient l'écriture, ils se sentaient quelqu'un. Ils ont payé le prix fort. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils ont tout. Ils ont une école française qui leur donne tous les livres, tout ce qu'ils veulent. Tu manges à la cantine et tu manges les repas équilibrés à la cantine. Et mieux encore, ils ont même parfois des gens à la maison qui peuvent les aider ou des gens dans l'environnement qui peuvent les aider. Or, ces gens-là qui, comme nos parents, quand ils étudiaient, dans son village, c'était lui le plus instruit. Donc, il est, lui, à l'école primaire, mais déjà, il est le plus instruit dans son village. Qui va l'aider? Parce que c'est lui maintenant qui aide tout le monde. Une lettre arrive, on vient vers le petit pour lire. Donc, mais nos enfants ont même des gens qui peuvent les aider, mis à part les cours de soutien scolaire à l'école déjà. Mis à part le fait qu'on a baissé même le niveau aussi. Mais c'est des gens comme Adam, ils naissent dans la prospérité. Donc il n'y a pas le respect de ce qu'ils voient. Et Dieu, maintenant, quand il fait naître son alliance avec Israël, il fait naître ça dans la logique de délivrance. Voyez d'où vous venez. Je suis le Dieu qui vous a libéré de l'esclavage d'Égypte. Vous étiez perdus. Vous étiez rien. Esclaves. Vous souffriez. C'est ce qui se passe avec nous. Quand Jésus nous rencontre, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous dit, à chaque fois qu'on va faire le parallèle avec le Nouveau Testament, il nous dit, c'est moi qui te sauve. D'abord, sa lumière te montre ton péché. Sa lumière te montre tes erreurs, mais après il te dit, maintenant je te sauve. Et quand tu es dans une telle relation, il y a le respect envers celui qui te donne ce salut-là. Parce que tu sais d'où tu viens. La relation a pour base une délivrance. Alors que la relation avec Adam n'avait pas pour base une délivrance. Mais je ne dis pas que les gens après oublient. Les gens, même si la relation a pour base une délivrance, ils peuvent toujours oublier. Il y a des gens qu'on a aidés dans la vie. Voilà, donc les gens peuvent oublier, mais au moins, c'est vraiment, ça sera à leur désavantage sérieux. Et parce que on t'a délivré, tu étais perdu, tu n'étais rien. Et Dieu commence l'alliance comme ça, il dit, je suis le Dieu qui vous a libéré d'Égypte. Voilà, ça commence comme ça. Donc ça commence dans une situation où il y a Dieu qui est grand, toi tu es petit. Alors que Adam, quand il entre, lui il est grand, Dieu est grand. Il entre, on lui donne la suprématie sur les poissons, surtout. Mais là, quand Dieu entre dans la relation, ah, bien-aimé, souvenez-vous, vous venez d'Égypte. Vous vous souvenez, je suis le Dieu qui vous a libéré d'Égypte. Donc là, au moins, l'alliance se construit dans une logique vraiment hiérarchique, normale. C'est Dieu qui est grand, nous, nous sommes petits. Et c'est très important. Et c'est comme ça que, vous voyez, beaucoup de chrétiens ne le sont pas vraiment parce que l'alliance ne s'est pas construite comme ça. Ils sont venus parce que il y a quelqu'un qui les a invités en insistant, viens, tu seras béni, viens, tu seras guéri, tes problèmes, viens. Donc, ils sont venus comme des clients auprès de Dieu, ou bien c'est parce que les parents les amenaient, ils sont venus comme des clients. Et ils ne comprennent pas qu'ils ont été sauvés d'une vraie perdition. Sauvés de la mort. Ils ne comprennent pas ça. À partir de là, ils ne peuvent pas être vraiment chrétiens parce que l'alliance n'a pas une bonne base. Pour que l'alliance avec Dieu ait une bonne base, il faut vraiment qu'on réalise qu'on était perdu, qu'on réalise ça. Si on ne l'a pas encore réalisé, on peut demander. Comme David a dit dans Psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu ». On peut demander. C'est nécessaire parce que sinon, tu n'auras jamais une relation saine avec Dieu. Parce que l'alliance commence mal. Et Dieu commence cette alliance en disant, « Voilà, je suis le Dieu qui vous a libéré de l'Égypte. » Et c'est ainsi que la vie chrétienne aussi commence, où Dieu dit pareil, « Je vous ai envoyé mon Fils, afin que vous ne périssiez pas dans le péché, mais afin que vous soyez sauvés. » Donc on commence dans un état de simplicité, contrairement à Adam. Voilà, c'est très important, chaque passage est très important, chaque passage est important. Nous continuons, verset 3.
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face.
Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc là, il n'y a pas d'exception. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Les autres dieux, là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être toi-même, ça peut être les astres, tout ce que tu veux, mais je ne veux pas d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu. Donc dès le départ, Dieu met les points sur les i. Comme nous avions dit, on fait toujours la rétrospective, on va en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Il a voulu être Dieu. On lui a dit, si tu manges du fruit, tu seras comme Dieu. Donc là, Dieu, il pose l'alliance et dit, ah, là, je vous le dis dès le départ. Je suis le seul Dieu. C'est très important, bien-aimé, de s'attarder là-dessus. Vous savez, il y a des moyens simples parfois de vérifier qu'une doctrine est mauvaise. Il suffit, quand tu observes la doctrine ou bien la logique de quelqu'un, de comprendre qu'il a un autre Dieu. Tu comprends qu'il y a là, il y a un souci. Quelqu'un qui va insister sur une méthode pour faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui va insister sur une façon, ça doit interpeller. Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est moi. Donc c'est moi qui suis la source de tout. C'est moi qui donne tout. Donc quand vous sentez que quelqu'un commence à avoir autre chose qui devient essentielle, qui prend la place de Dieu, vous dites, ah là, il y a un problème. le premier commandement est violé. Donc ça te fait tilt. Tu deviens attentif, tu dis, ah là, il y a un souci. C'est très important. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Rien que ce commandement-là peut suffire à trier entre les fausses doctrines. Rien que ce commandement-là. Tu vas dans une église, tu observes, tu comprends que là, mais là, il y a un Dieu ici. Parce qu'en entrant au couloir, déjà, il y a la photo en grand du pasteur. Une grosse photo, l'homme de Dieu, celui de, l'homme du moment. Il y a même quelqu'un qui s'appelait Voici l'homme. Donc, un pasteur qui s'est donné le nom de Voici l'homme. Donc tu entres, tu vois déjà, et tu entres, c'était qui là-bas? Béni in Ministries. Directement, tu n'as pas besoin d'écouter ce qu'il va dire. Parce que le commandement numéro un est violé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parfois, on se complique, on discute dans la doctrine. Mais quand il y a des gens avec qui tu discutes, tu as l'impression que pour lui, le parler en langue, ça a remplacé Dieu. On est pour le parler en langue. On est d'accord pour tous les dons. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un s'exprime, comme si cette affaire-là prenait la place de Dieu, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, quand on dit Dieu, il faut comprendre ses attributs. Dieu est la source de tout. Quand quelque chose devient comme la source, dites-vous que ça a pris la place de Dieu. Faut faire donc rien que ce commandement peut suffire pour nous montrer que là, la personne est en train de dévier parce qu'elle considère telle chose, telle doctrine, telle phrase comme étant le centre de tout. Or, le centre de tout, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est très important, bien-aimé, c'est très important. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand Jésus dit à Pierre, « Mangez-tu ? » Pierre dit, « Mais non, mais c'est interdit. » Qu'est-ce qu'on lui répond ? « C'est moi qui fixe ce qui est interdit et ce qui est permis. » Donc, même au-delà de tout ce que Dieu lui-même t'a appris, lui, il reste au-dessus de tout ça. C'est le premier commandement. Je suis le seul Dieu. Tu ne vas pas un jour dire, mais non, 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 Dieu. Un autre exemple. Quand Dieu dit de sacrifier Isaac, Abraham pouvait dire, non. Je refuse parce que tu m'as dit que c'est lui mon descendant. C'est lui qui va produire en postérité. C'est faux. Je refuse. Premier commandement. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est moi le chef. Je te dis de sacrifier cet enfant. Tu le sacrifies. Du moment que tu te rends compte que c'est moi qui te le dis, c'est fini. Il n'y a plus de discussion à dire, mais non, dans telle page, alinéa 5, c'est écrit, Dieu va te dire, mais qui a écrit tout ça là? C'est ce qu'il a dit à Pierre, c'est moi qui te dis, mange et tue. C'est moi le chef de tout. Il faut comprendre, quand Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu, ce n'est pas seulement officiellement comme ça tu as un autre Dieu. Non. Qui est-ce que tu considères comme source? Qui est-ce que tu considères comme incontournable? Quand quelque chose devient incontournable, ça a pris la place de Dieu. Ça a pris la place de Dieu. Je me souviens un jour, dans la région parisienne, je me suis réveillé. Bon, la région parisienne, bien aimée, on était poussé dans les extrêmes. Donc il faut. Un prédicateur va dire qu'il faut prier à 2h du matin, tailler les esprits. Un autre dit que c'est à 3h du matin, que c'est bon. Un autre dit que c'est à 6h. Voilà, donc, et il fallait faire les choses. Un jour, je me réveille. Je n'avais pas assez de temps vraiment pour prier beaucoup avant d'aller au travail. Et je dis, ah Seigneur, je ne pense même pas que tu peux me remplir de ton esprit. Bien-aimé, il y a une voix qui m'a dit, c'est moi qui remplis du Saint-Esprit. Et je te remplis maintenant. Et je t'ai rempli par une puissance. C'est ça, bien-aimé. Quelque chose devient. C'est Dieu qui reste Dieu. Même si on sait que c'est la prière qui nous rapproche de lui, mais la prière ne le dépasse pas lui-même. Ne le dépasse. Où est-ce qu'on nous dit que le monsieur de la piscine de Bethesda a demandé à Jésus quelque chose? Non. Lui, il était couché. C'est Jésus qui te dit, mais tu veux être libéré. Ben, lève-toi et marche. Il n'y a pas eu une prière à dire à Jésus, fais ceci, fais cela. Et de l'autre côté, on voit Bartimée crier à Jésus. Vous voyez que Dieu reste Dieu. D'un côté, il a fallu qu'on crie pour qu'il guérisse. De l'autre côté, la personne ne fait rien, on vient le guérir. Le monsieur qu'on a déposé par ses amis du haut du toit, lui n'a rien dit. Jésus lui dit, mon enfant, tranquillise-toi, tes péchés sont pardonnés. Les gens veulent discuter, allez, lève-toi et marche. Donc, Dieu reste Dieu. Malgré tout ce qu'il peut nous dire, malgré tout ce qu'il peut nous donner sur la terre, c'est lui, Dieu. Donc, tu ne peux pas le remplacer par autre chose. Il ne faut jamais oublier ça, bien-aimé. J'insiste. Je dis que je vous ai dit en introduction ceci. Il n'y a que deux personnes, rappelez-vous de cette phrase-là, qui ont reçu la parole. Moïse et Jésus. Que personne ne vous trompe. Donc, tout ce que Moïse dit, il faut faire attention. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle là. Ce n'est pas des interprétations, ce n'est pas des explications. C'est Dieu. D'ailleurs, vous en avez la description quand vous lisez Exode 19. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Mais Dieu, bien-aimé, sa parole est vaste et riche et cohérente. C'est relié au Nouveau Testament. Attention. Donc là, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et 1 Timothée 2,5 nous dit quoi ? 1 Timothée 2,5.
Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Amen. Voilà. Donc, tout est relié. Là, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Je suis le seul. Et 1 Timothée 2, 5 nous le rappelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, bien-aimés, faisons attention à tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement prier quelqu'un comme ça ou une chose ou bien un Dieu quelconque, mais il s'agit de donner les attributs de Dieu à quelqu'un ou à un système ou à une façon de faire. Quand on donne les attributs de Dieu à ça, on a fabriqué un autre Dieu. Rien que le premier commandement suffit à nous préserver de beaucoup de choses. Quand quelqu'un te dit, tel serviteur de Dieu, tout le monde doit l'écouter. Ça veut dire quoi? Il a pris la place de Dieu. Parce que Dieu, il parle comme il veut. Job 33 nous le dit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on dit qu'il faut, c'est ce qu'un serviteur de Dieu qui était très bien connu dans les milieux évangéliques, Ivo Sasek, beaucoup de gens suivaient ses enseignements. À un moment, il s'est levé, il a dit, c'est lui l'apôtre de notre siècle, donc tout le monde doit écouter ses enseignements. Il a fini, je crois, dans un accident d'avion. Je ne dis pas que c'était une punition, mais je dis, ben voilà, il n'a pas traîné, il est mort. Donc les gens, après quand ils sont beaucoup utilisés par Dieu, ils finissent par penser qu'ils prennent la place de Dieu. Non, tu ne peux pas dire que tout le monde doit écouter un tel. Non, tout le monde doit lire la Bible. Ça, c'est vrai. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Mais écouter un tel, ça, c'est Dieu lui-même qui dirige les gens. Il va te pousser à écouter un tel, il va te pousser à écouter... Voilà, on ne peut pas dire tout le monde doit passer par lui. Là, ça veut dire qu'il a pris la place de Dieu. Comme on vient de lire, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, c'est Jésus. Voilà. Nous continuons 4 à 6.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Voilà. Est-ce que Dieu s'est trompé en donnant ce commandement? Il ne s'est pas trompé, hein? Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le catholicisme? Qui se revendique étant une religion de Dieu, de la Bible, du Dieu de la Bible? Des statues, des humains représentés, toutes sortes de choses, toutes sortes de représentations. Le catholicisme orthodoxe, n'en parlons pas. spécialiste des icônes et d'images. Donc Dieu connaît l'homme. Il savait que l'homme va vouloir se faire son des images. Il le connaît pour consacrer ça en Dieu. C'est pourquoi il donne ce commandement. Mais ce commandement ne change pas du premier. Il est toujours relié au premier. Ne crée pas d'autre Dieu. Mais Dieu tape sur la tendance la plus forte de l'homme, c'est d'avoir quelque chose en face qu'il peut gérer, qu'il peut dire, qu'il peut voir, qu'il peut saisir. Il tape sur ça et il dit attention, attention aux représentations que vous allez finir par servir. Vous allez finir par servir cela, attention. Oui, oui.
Oui, parce que je voulais justement insister sur ce point-là, parce que ça amène quelquefois un débat ou bien une incompréhension dans le milieu chrétien concernant les représentations. Certains vont dire, mais oui, mais moi j'ai juste une statuette d'un animal chez moi, en quoi c'est mauvais? Tu as ceux qui sont entre guillemets extrémistes qui vont dire, oui, mais c'est une représentation. Donc, est-ce qu'il y a une limite ou à quel niveau on peut se dire que, bon, telle chose, ce n'est pas dangereux ou ça ne va pas à l'encontre de ce que le Seigneur voudrait.
Oui, donc moi je dis, c'est le même commandement qui continue. L'idée est de prendre quelque chose en grande importance. Voilà, donc quand on représente, on prend ça en importance, ça finit par prendre la place de Dieu. Donc c'est ce qui est réprouvé là. Donc, mais quelqu'un qui fait son dessin de paysage, ce n'est pas, l'idée n'est pas de prendre ça en grande importance. L'idée, c'est de dessiner. Mais quelqu'un qui dira, mais moi, par précaution, je ne mets rien, eh bien, qui le fasse. Mais de là à considérer que tout celui qui a fait une représentation est dans l'erreur, ce n'est pas conforme à ce qui est écrit là. Oui, oui.
Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour des gens qui prennent des représentations qui sont des idoles dans d'autres, dans des sectes, et qui disent que je n'accorde pas de l'importance à ça?
Par exemple, un exemple simple.
Par exemple, le Bouddha aussi, c'est clair. Mais il dit que j'apporte pas de l'importance à ça. Il y a encore d'autres choses, mais je prends seulement un exemple, le Bouddha.
Non, le Bouddha, c'est un démon. Ça, c'est clair que comment quelqu'un peut avoir un démon chez lui et dire je n'accorde pas d'importance. Donc, Bouddha a des doctrines qui. Bouddha, c'est simple. C'est Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Bouddha enseigne aux gens qui sont leurs propres dieux. Donc, lui, il va à l'encontre directe d'Exode 23. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup, la plupart des doctrines sont destructibles rien qu'avec Exode 23. Voilà, oui.
D'accord. Il y a aussi, disons, j'ai regardé une vidéo où c'est un chrétien, bon, c'est pas un serviteur de. C'est pas, disons, quelqu'un qui se dit vraiment chrétien, mais qui a de la connaissance quand même, qui dit que. À son avis et à ce qu'il sache, d'après ce qu'il a lu, que...
Il a lu où?
Je ne sais pas, mais okay, je continue. Que avoir une représentation qui aurait quand même une signification, disons, une influence spirituelle chez soi, même si on ne la considère pas, pourrait être des antennes, attirer une influence diabolique chez soi.
Oui, mais tu l'as dit toi-même dans ta phrase. La représentation a une influence spirituelle. Tu l'as dit?
Ou bien non. Par exemple, on connaît les gens qui ont des habits esprit, voilà, avec un nom esprit. Le fait de l'avoir chez soi, ça peut attirer. Les gens qui ont des photos, par exemple, avec des images qui font un peu peur, pourrait attirer. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu peux dire?
Oui, mais toi-même, tu réponds à ce que tu dis, que ça, c'est des noms avec des connotations spirituelles qui ont... Donc, rien que ces noms-là, tu dis toi-même « esprit ». Donc, c'est des noms. Si quelqu'un a un vêtement marqué « Satan », ben, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est clair. Donc, c'est... Je crois que les images horribles, elles veulent dire ce qu'elles veulent dire. Donc, des images d'horreur. Donc, ben, ça attire les choses liées à l'horreur. Donc, moi, je pense que... voilà, je pense que ça, c'est un peu clair. Quelque chose qui représente, qui a un sens dans sa représentation, donc il faut faire attention. Donc maintenant, le problème, c'est que de ne pas de tomber dans l'autre extrême pour considérer que toute représentation est diabolique. Voilà, parce que après lui-même, quand on va lire la Bible, Dieu lui-même demande une représentation, qu'on fasse les chérubins. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention avec Dieu. Donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême parce que lui-même va te confondre. Parce que lui-même, il dit à Moïse de faire des représentations. Qui a fait faire les représentations du serpent? C'est Dieu lui-même. Donc, maintenant, c'est pourquoi il faut faire attention à prendre des positions qui nous transforment nous-mêmes aussi en Dieu. Tu prends une position, mais tu n'as pas lu toute la Bible. Il faut faire attention. Donc, c'est... Oui.
Oui, quand tu dis que Dieu sait que l'homme va se faire des images, c'est par rapport au fait que, par rapport au manque de foi, en fait, on a besoin de voir pour...
L'esprit de contrôle. Donc l'homme va faire quelque chose, un Dieu qui lui-même contrôle en réalité. Dieu sait que le vrai problème de l'homme, c'est être Dieu. Et une des voies faciles de l'être, c'est de se faire un Dieu, par exemple, qu'on peut mettre dans la poche. Pas les gris-gris. Quelqu'un prend un fétiche et met dans la poche. Il estime que c'est ce fétiche-là qui le protège. Donc c'est ce fétiche qui est son Dieu. Mais qui est Dieu en réalité? C'est lui. Puisqu'il a le fétiche dans sa main. Mais c'est un moyen détourné d'être Dieu sans s'afficher Dieu. Dieu sait que le vrai problème de l'homme, c'est être Dieu. Donc, mais le moyen facile d'expression, c'est l'image, c'est la représentation, c'est les objets. C'est pourquoi il dit « Attention, je ne veux pas ça ».
Mais voilà. Quand il y en a qui ont besoin, je ne sais pas moi, d'une représentation d'un homme qui se considère comme étant Jésus pour prier.
C'est là qu'on dit qu'ils sont contre la parole de Dieu. C'est là qu'on leur sort Exode 20.
Oui, mais là, c'est par rapport à quoi que la personne a besoin de l'image de Jésus, soit
disant, esprit de contrôle toujours. Il veut voir quelque chose, sentir quelque chose. Voilà, parce que quand tu ne sens pas, c'est-à-dire que ça va tomber au moment où tu ne sais pas. Je vous ai raconté l'histoire de Nitusheng quand ils ont combattu le dieu Tawang. Mais le jour où ils attendaient que la pluie tombe, ils sont sortis, il n'y avait pas de nuages. Mais quand ils sont entrés dans la maison, la pluie est tombée. Ça, c'est Dieu qui montre qu'il est plus fort que les nuages. Donc, tu ne dois pas compter sur une représentation pour être sûr que Dieu va agir. Donc, les gens maintenant qui veulent une représentation, ils veulent à tout prix maîtriser les choses. Comprendre, le nuage, donc Dieu... Donc, ils veulent maîtriser. Ça reste l'esprit de contrôle. En fait, c'est toujours le vieux problème d'Adam. Nous sommes des descendants d'Adam. Nous avons son problème qui a été de prendre la place de Dieu. Et nous l'exprimons. Vous remarquez pas que le premier commandement, c'est ça. C'est le premier commandement. C'est ça le but de cette étude. C'est pourquoi on traîne sur Exode 20. Parce que ça nous révèle notre problème. Notre problème, c'est être Dieu. Et on va voir que les trois premiers commandements, sinon les quatre, les trois premiers commandements, c'est ça le problème. Ne pas prendre la place de Dieu. Oui. Oui, oui, sœur Félie, ou bien quelqu'un d'autre. Ah oui, oui, vas-y.
Oui, pasteur, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit le frère Jean sur les habits et les dessins qui vont avec. Mais pour les gens qui sont complètement ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils portent. Qu'est-ce que ça peut faire sur eux? Parce que les gens qui portent les habits avec des dessins...
Oui, ça va faire des mauvais effets. Oui, oui, c'est comme si tu prends du poison sans le savoir.
Et j'ai une autre question, on va revenir un peu en arrière, c'est sur Adam. Je veux savoir, Adam c'est le premier-né. Comment se fait-il que Dieu a permis à Adam de se faire tenter alors que il voit tout, il entend tout et il sait tout. Est-ce que c'était volontaire de la part de Dieu que Adam se fasse tenter?
Ah oui, il a laissé faire. Oui, oui.
Oui, mais pourquoi?
Pour qu'Adam choisisse, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être soumis à Dieu ou bien à lui-même? Oui, donc nous continuons, oui.
Pasteur, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tu as dit que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse c'est de représenter le serpent et puis les chérubins. Mais par rapport à ça, quelqu'un qui va dire, mais oui, mais t'as, dans la Bible, on a vu que Dieu a représenté les chérubins. On voit des gens qui, par exemple, ont des représentations, c'est de chérubins, on voit des petits anges.
C'est pourquoi tout. Nous disons que c'est Dieu qui a dit. C'est pourquoi, en introduction, j'ai dit qu'il n'y a que deux personnes qui ont reçu la parole, Moïse et Jésus. J'ai dit ça en introduction, pas pour rien. C'est pour nous apprendre à chaque fois à revenir sur eux. Parce que si tu t'inventes qu'autre chose, tu sors. Jean est clair dans Jean 1,17, la loi, c'est-à-dire la première partie a été donnée à Moïse, la deuxième partie à Jésus. Et la deuxième partie de Jésus, c'est la totalité en même temps. Donc c'est fini. Donc c'est Dieu qui leur avait dit, il n'a pas dit à toi de le faire.
Donc, en fait, les gens qui font ça, soit c'est par manque de connaissances, ou alors...
Non, toujours le problème d'être Dieu.
Parce que tu as aussi des païens aussi qui le font, ils ne savent pas forcément...
Mais les païens sont des pécheurs, ils veulent être comme Dieu. Voilà. Donc, oui.
Par rapport à ce qu'on a dit, en fait, sur les choses qui portent des noms, qu'elles ont des connotations directes, par exemple, du coup, est-ce qu'une série, par exemple, qui s'appelle Esprit criminel, ça, c'est forcément véhiculateur d'un mauvais esprit parce que son nom est Esprit criminel?
Non, ça c'est quand la série s'intitule Esprit criminel, est-ce qu'il parle des démons ou il parle de...
Non. Mais en fait, c'est une série policière.
On utilise en français, on peut dire l'esprit. L'esprit, ça ne veut pas dire forcément un démon. Ça peut vouloir dire des humains aussi, en français. Donc, ça ne veut pas dire forcément des démons. Donc, on vous montre des gens qui aiment le crime. Donc, c'est pourquoi on les appelle esprits criminels. Voilà, il ne s'agit pas forcément de... Oui. Mais là, on sort parce que nous, on est sur les images. Voilà, vas-y, oui, pose quand même la question. Ce n'est pas grave. On n'est pas non plus obligé de regarder ces trucs-là, mais oui.
Non, je veux dire, la série parle aussi, enfin, beaucoup d'épisodes est aussi basé sur la sorcellerie ou sur les esprits, les gens qui sont possédés, un truc comme ça. Est-ce qu'à force de regarder des trucs comme ça, on peut...
Moi, je vous dirais une chose, vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Les gens qui habitent au village ne regardent pas ça, ils sont tranquilles. Donc, on n'est pas obligé de regarder ça, voilà. Oui.
Oui, comme Dieu insiste par rapport à ce commandement-là, nous-mêmes en tant que chrétiens, en fait, c'est quelque chose qu'on doit voir tous les jours, en fait, à ne pas avoir d'autre Dieu que...
C'est ce que j'ai dit en introduction. Attention, Exode 20, on va s'attarder parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une interprétation, c'est Dieu qui a réuni tout un peuple pour leur dire. Donc il faut comprendre que Exode 20 est capital dans le christianisme, dans la Bible. Parce que c'est ce que Dieu réunit tout le monde pour dire, voici ma pensée. Qui peut contredire ça? Donc personne. Donc il faut vraiment faire attention. Là, il réunit tout le monde. Il dit, voici ma pensée. Donc on doit être attentif à ça, à tout moment. Attentif.
Pasteur, est-ce que... je ne sais pas comment je vais poser la question. En fait, vouloir à tout prix, par exemple, avoir quelque chose, est-ce que... Cette chose peut vraiment prendre la place de Dieu si on veut à tout prix avoir quelque chose.
Oui, ça prend la place de Dieu parce que tu ne peux pas vivre sans ça. Oui, tu prends la place de Dieu, ça prend la place de Dieu. Dieu doit nous suffire, il est la source. Maintenant, nos désirs ne sont pas interdits. Mais quand la non-obtention devient un synonyme de mort, comme le mort, c'est comme si cette chose-là devenait la source du bonheur, ça a pris la place de Dieu. Donc retenons que quelque chose qui prend les attributs de Dieu, Donc ça prend la place de Dieu aussi. Oui.
Oui, je voudrais poser la question par rapport à la représentation qu'on fait du Saint-Esprit en forme de colombe. Ça se retrouve dans beaucoup d'assemblées. Tu rentres, tu vois une grande image, c'est une colombe. Et on sous-entend que ça représente le Saint-Esprit. Est-ce que là, il n'y a pas une certaine idolâtrie?
Moi, je préfère qu'on ne le fasse pas. Voilà. C'est ce que je dirais en vertu de ce qu'on va lire à la fin. Là. On va le lire, verset 23. Parce que la technique de l'homme, c'est de dire quoi? Non, ce n'est pas un autre Dieu, c'est toi-même que je représente. Donc Dieu, connaissant les gens là, ils sont compliqués, il glisse le verset 23. Oui, vas-y, frère.
Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point.
Voilà. Donc, non, il faut lire le 22 aussi, c'est important pour comprendre le lien.
L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras aussi ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. »
Voilà, il leur dit, mais je vous ai parlé dans le vide. Il n'y avait rien. Vous entendiez seulement la voix. Alors ne vous méprenez pas pour construire des choses et dire que c'est ça Dieu, parce que ce ne sont pas ces choses-là qui vous ont parlé. C'est le vide. Dans le vide, je vous ai parlé. Donc ne faites pas de. Donc Dieu les a calés. Parce que quand Aaron avait fait le veau d'or, on ne veut pas aller trop vite, mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Israël, voici ton Dieu. Et l'idée d'Aaron et les autres, ce n'est pas qu'ils adoraient un autre Dieu. C'est le Dieu qui les a sortis d'Égypte. C'est ce faux d'or-là. C'est le même, c'est lui l'Éternel. Donc c'est ce que Dieu réprouve déjà dès le verset 23. Il dit, attention, quand je vous ai parlé, c'était vide. Donc ne vous méprenez pas pour construire un truc et dire, ah, mais est-ce que c'est ce truc-là qui vous a parlé? Voilà. Donc c'est ça que... c'est ça qui répond à ça. Donc, soyons prudents, représenter le Saint-Esprit sous forme de colombe, tout ce que. C'est des choses, on n'en a pas. Les Paul n'ont pas fait ça. Moi, je réponds toujours simplement, Paul n'a pas fait ça, Pierre n'a pas fait ça. Pourquoi moi, je vais faire? Donc, soyons simples. Imitons nos aînés. Nous continuons. Voilà, avant de continuer, il y a un terme qui retient mon attention au verset 5. À la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, Dieu lit le fait d'adorer des images et des représentations au fait de le. Il lit ça à la haine vis-à-vis de lui. Je dis, mais c'est vrai. Pour lui, quand on adore des statues, des représentations, on le déteste, lui. Effectivement, bien-aimé, quand quelqu'un peut dire qu'un veau, c'est Dieu, n'est-ce pas une forme de détestation de Dieu? Quand tu peux dire qu'une statue de Bouddha de bonheur avec un gros ventre, c'est Dieu, n'est-ce pas une détestation de Dieu? Je veux dire, comme dans certains pays d'Afrique, il y a eu... Il y a des cases là où la case elle-même, si le vent souffle, ça va tomber. Vous dites qu'il y a Dieu dedans. Donc, Dieu dit, de ceux qui me haïssent, ces gens-là me haïssent. Ils n'aiment pas tel que je suis invisible. Ils ne m'aiment pas tel que je suis tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre. Ils me réduisent à quelque chose, à un objet. Ils me haïssent. Effectivement, les gens qui font ça, ils haïssent Dieu. Et Dieu dit, mais tous ceux qui me haïssent, ben, je continuerai à les frapper ainsi. Voilà, nous continuons verset 7.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Ah. Avant de parler de ça, nous retenons un parallèle dans Exode 24 à 6 avec Actes des Apôtres au chapitre 17, où Paul explique aux gens qui entrent en train de l'écouter, mais Dieu ne peut pas être représenté par un objet. Dieu ne peut pas être un objet. Il dit, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, il ne peut pas habiter des petits objets que peuvent être même un grand édifice pour nous, Pour lui qui a fait les cieux et la terre, c'est un petit objet. Donc il ne peut pas être ces objets-là. Il ne peut pas habiter dans ces objets-là. Paul fait cette prédication clairement à Athènes pour dire aux gens non. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 19, il fait la même chose concernant les temples de Diane. Il attaque ça et dit, mais Dieu ne peut pas être dans une statue. Et c'est ce que nous devons comprendre, que le problème de l'homme, c'est représenter Dieu, mettre Dieu quelque part et gérer Dieu. Et nous devons résister à cela. Donc il dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu à la légère. Il dit, non, Dieu, je ne suis pas une philosophie. Je ne suis pas une science. Je ne sais quoi. Je suis Dieu. J'ai fait les cieux et la terre. Attention quand vous usez de mon nom. Et le Seigneur dit dans Hébreux 11, 6, celui qui s'approche de Dieu doit prendre ça au sérieux. On va lire Hébreux 11, 6.
Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Amen. Donc Dieu insiste sur le fait que quand tu le pries, ça doit être sérieux. Donc le fait de dire Dieu par tradition, par tralala, tu pries, tu multiplies les paroles, ça l'énerve. Il veut que quand tu lui parles, tu considères vraiment qui il est dans sa toute-puissance, dans sa gloire. Il faut le prendre au sérieux. Là, il parle vraiment à son peuple qui croit en lui. Il dit, attention, quand vous utiliserez mon nom, c'est du sérieux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça mécaniquement. Ils ont pris ça matériellement. Donc, quand ils devaient écrire la parole, quand ils arrivaient à YHWH, ils allaient laver les mains et puis ils revenaient écrire YHWH. Donc, ils ne citaient pas le nom de Dieu. Donc, vous savez, en Israël, on appelle Dieu Hachem. Ça veut dire le nom. On dit le nom. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est ça, dire le nom. Donc, on ne cite pas ce nom-là. Mais non, mais ce que Dieu voulait dire, c'est que quand tu dis Dieu, tu comprends qu'il est tout-puissant, qu'il est le Créateur, qu'il t'écoute, que tu es dans une vraie conversation. Prends ça au sérieux. Voilà. Mais eux, c'est quand même Hachem. Donc c'est le nom. Pendant qu'il boit son whisky, Hachem. Voilà. Donc, non. C'est prendre au sérieux cette relation-là. Sinon, il y a des contre-coups. On ne doit pas parler à Dieu d'une manière creuse. Il faut que ça soit costaud. Il faut que ça soit sérieux en fonction de qui il est. Bien-aimé, vous vous imaginez rencontrer le président de la République pour lui parler d'une manière creuse. Lui parler d'un but qu'un joueur a raté lors d'un match. Oh. Et les gens ont dit, mais petit, le président a le temps d'écouter de tes trucs-là. Dis les choses sérieuses. Donc c'est ça. Donc quand on rencontre Dieu, c'est pour être sérieux, pour vraiment une vraie relation en fonction de qui il est, de sa grandeur. Exode 20, 8 à 11. Donc là, nous sommes toujours les quatre premiers commandements. Vraiment, c'est toujours le sérieux sur Dieu. Le sérieux sur Dieu. Ça n'est pas fini, même le cinquième. On continue. 8 à 11.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Amen. Nous faisons une petite mise au point. Quand on dit que Dieu s'est reposé le septième jour, ce n'est pas un repos de fatigue. Ce n'est pas comme nous, quand on dit « je me repose », c'est parce qu'on est fatigué. C'est un repos d'achèvement. Tu as achevé, c'est comme une maison que tu fais construire. Quand tu fais construire une maison, ce n'est pas toi qui construis, c'est pas toi qui... Sauf quelques-uns d'entre nous qui sont assez équipés pour cela. Mais la plupart d'entre nous, si tu dois acheter une maison, tu fais faire les choses par une entreprise ou par d'autres personnes. Mais donc, quand tu entres dans cette maison-là, tu te reposes de tout le travail qui a été fait. Ce n'est pas que c'est toi qui t'es épuisé à faire ça, mais tu te reposes de ce qui a été fait. Tu entres dans la jouissance de ce que tu as produit. C'est ce repos-là. Ce n'est pas un repos de fatigue. Voilà. D'où, tout ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand les gens interprètent le sabbat, eux, ils insistent sur le côté ne rien faire physiquement, comme si c'était lié à un effort physique. Or, ce n'est pas lié à ça. C'est lié à la consécration à Dieu. Donc, sanctifier, ça veut dire mise à part, mettre à part. Sanctifier, ça veut dire c'est pour Dieu ce jour-là. Je l'ai mise à part pour moi, pour que vous vous consacrez en réalité à moi. Ce n'est pas comme en Israël. Donc, même appuyer sur le bouton de l'ascenseur, c'est interdit le jour du sabbat. Oh, mais en quoi appuyer sur le bouton 5 de l'ascenseur? Donc, le jour du sabbat, l'ascenseur s'arrête à tous les étages. Tu entres, tu attends que ça s'ouvre. Ça s'ouvre, tu entres. Tu vas au 8e étage, ça s'arrête au premier. Ça s'ouvre. Deuxième, ça s'ouvre. Troisième, ça s'ouvre. Ah, nous, en bons étrangers, on prenait l'autre ascenseur où tu peux appuyer. Hein. Donc, il n'y a pas de pitié pour les gens qui sont dans les erreurs doctrinales. Non, nous refusait de prendre cet ascenseur-là. On prenait l'autre qui était dédié aux étrangers, où on pouvait appuyer. Je vais au septième, donc je vais faire un, deux, parce qu'appuyer, c'est violer le sabbat. Bien aimé. Donc voilà les travers dans lesquels on tombe quand on veut contrôler Dieu. Donc on veut gérer ce que Dieu a dit. Maintenant, comme l'homme est limité, eh bien, il va tomber dans les travers. Il va tomber dans... Au fait, la plupart des sectes, c'est quoi? C'est dû au fait que l'homme veut gérer ce que Dieu a dit, au lieu juste d'appliquer dans la mesure que lui, il peut comprendre. Mais lui, il veut contrôler, gérer. Et à partir de là, il crée une autre parole. Or, la parole a été donnée seulement à Moïse et à Jésus. Voilà. Et donc, dans ce commandement-là, il y a Dieu qui veut être aussi reconnu comme qui? Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le créateur. Dieu et la création, c'est lié. Tu ne peux pas dire Dieu et nier que c'est lui qui a créé. Mais quelqu'un dira, mais oui, mais qui va nier? Oui, les gens qui disent il y a eu évolution, ils nient que c'est Dieu qui a créé. Ils nient que c'est Dieu qui a créé. Donc, Dieu se révèle comme étant le créateur. Il n'y a pas de discussion. Il dit, c'est comme ça. Donc, quand il dit le sabbat, c'est une façon de dire, vous reconnaissez par là que c'est moi qui suis le créateur. Deuxièmement, c'est le jour où vous devez vous consacrer à moi. Vous devez vous consacrer à moi. Et nous sommes obligés donc de dire que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes consacrés totalement à Dieu. Il n'y a pas un jour, c'est tous les jours. C'est ainsi que dans Romains 14 et dans Colossiens 2, c'est expliqué. Hein, à partir du verset 16, l'apôtre Paul nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, les jours spéciaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tout entiers à Dieu. Chaque jour, c'est ça l'objectif de Dieu, tout entier à Dieu chaque jour. Mais c'est important, bien-aimé, de se souvenir que Dieu est le Créateur. C'est important. Vous savez, beaucoup de nos prières sont fades, ne sont pas puissantes, parce que quand tu oublies que Dieu est le Créateur, tu as du mal à lui demander certaines choses. Qu'est-ce qui a donné le courage aux centeniers romains? C'est le fait que Jésus était le Créateur. Il se dit, mais moi je donne des ordres à mes soldats. Fais ceci, il fait. Va là-bas, il fait. Mais Seigneur, toi, tu peux donner un ordre aux molécules qui dérangent mon serviteur. tu peux donner un ordre au corps de mon serviteur. Et en plus, à distance, là, lui, il a vraiment dit, tu es le créateur. Pourquoi traîner? Pourquoi tu dois marcher jusqu'à chez moi pour imposer les mains à mon serviteur? Tu es le créateur. Donne un ordre à la création t'obéit. Jésus a dit, même en Israël. Pourquoi il a dit même en Israël? Parce que le commandement 5, le commandement qu'on vient de lire là, devait apprendre aux Juifs que Dieu est le créateur. Mais ils ne pratiquaient pas ça, ça reste comme ça dans le vide. Le sabbat, mais tu pratiques le sabbat, mais tu oublies que c'est Dieu qui est le créateur. Qu'il voit tout, qu'il est tout puissant, qu'il peut répondre à n'importe quelle prière, puisque c'est lui le créateur. Mais les gens vont prendre le côté physique où ils contrôlent tout. Le jour du sabbat, on ne doit pas appuyer sur tel bouton, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Non. Et Jésus va les attraper, il dit, mais quand votre chèvre tombe dans le puits, vous allez récupérer hein, le jour du sabbat. Voilà, vous nous faites des grimaces, mais en réalité, vous violez votre même façon de faire le sabbat, vous violez cela. Donc la réalité, c'est que Dieu veut être reconnu comme le créateur. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 17, mon père travaille, moi aussi je travaille. Parce que quand on l'attaque, on dit, mais c'est le jour du sabbat. Comment tu peux faire des guérisons ce jour? Il dit, mais mon père travaille, moi aussi je travaille. Le repos de la création a été ruiné par le péché. Comment Dieu peut se reposer d'une œuvre imparfaite? Il s'est reposé, l'œuvre était parfaite. Mais après que le péché entre, Dieu était maintenant dans le plan d'envoyer son fils. Mais en attendant que son fils arrive, il fallait qu'on le reconnaisse comme le créateur, qu'on respecte ce repos-là. Du moment que son fils est arrivé, il dit, mais mon père, il travaille. Moi aussi, je travaille. Donc, quand on dit le sabbat, c'est se consacrer à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, consacrer, se consacrer, mettre ça à part pour Dieu et non pas élaborer des critères physiques. Vous savez, en Israël, il y a plusieurs sectes. Chaque secte fête le sabbat en sa manière. Donc chaque secte a ses restrictions. Donc finalement, c'est quoi la vraie restriction? En réalité, le vrai sabbat, c'est en Jésus. Quand on entre en Jésus, on est dans le repos véritable et toute notre vie maintenant est consacrée au Seigneur. Nous continuons maintenant, Exode 20, 12. Donc on entre maintenant dans un autre genre de commandement, quoique Exode 20, 12, c'est comme ça, ça reste lié un peu à Dieu, mais on va s'expliquer, on va lire.
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Voilà, honore ton père et ta mère. Voilà. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 6, je crois. Il dit, c'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu auras, tes jours se prolongeront dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il dit, c'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. Mais quel est un des signes de la fin des temps? C'est que les gens vont être, ce qui est écrit dans Timothée, ils vont être rebelles à leurs parents. C'est la fin des temps. Donc, c'est des gens qui vont commencer à ne plus écouter le père et la mère. C'est un commandement très important que Jésus même lui-même a rappelé. Il a dit, au lieu d'honorer vos parents, vous ne les honorez pas, vous dites que ce que vous devez leur donner comme argent, vous avez donné ça au temple. Vous avez fait ça corban, donc vous avez donné ça pour Dieu. Et donc, vous ne pouvez plus aider vos parents. Alors que la Bible, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Attention, bien-aimés, prenons au sérieux ce commandement. Beaucoup vivent dans les malédictions à cause de la désobéissance vis-à-vis de leurs parents, dans les malédictions, dans les blocages à cause de la désobéissance vis-à-vis des parents. Leurs jours ne sont pas prolongés. Ils ne sont pas bénis. Ils ne connaissent pas le vrai bonheur parce qu'ils se rébellent vis-à-vis de leurs parents. Mais en réalité, ce commandement cache un vrai problème, c'est le problème de l'héritage, le problème de la production. Qui t'a produit? Si aujourd'hui des gens désobéissent à leurs parents, ils finiront par désobéir à qui ? Aux vrais parents, aux grands-parents qui est Dieu lui-même. Si aujourd'hui tu commences avec celui qui t'a produit, le lien le plus direct de production, tu finiras par rejeter le lien, entre guillemets, lointain de production. Tu finiras par rejeter Dieu. C'est une réalité, bien-aimée. C'est qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a des mauvais parents, mais bon, on va écouter.
Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que honorer son père et sa mère, c'est aussi supporter la charge financière ?
Ça fait partie. Ça ne veut pas dire devenir son parent, mais savoir l'aider quand il en a besoin et quand on peut. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on devient son parent, mais savoir l'aider. Mais d'ailleurs, c'est Jésus lui-même le dit, hein, dans l'évangile. Il dit, mais l'argent que vous, au lieu de donner, d'aider vos parents, vous ne les aidez pas, vous dites que cet argent, vous avez donné ça au temple. Lui, il est parti loin. Il n'a même pas dit que vous avez pris cet argent, vous avez utilisé vous-même. Il dit, vous avez donné, vous avez fait de cet argent corban. Donc vous dites, ah, mes sous, j'ai fait de ça corban. J'ai donné au temple. Donc, je ne peux pas t'aider. Jésus dit, vous désobéissez à la parole qui vous dit, honore ton père et ta mère. Il faut que je trouve le passage, mais c'est Jésus lui-même qui le dit.
Pasteur, je voulais rejoindre un peu la question de Laurie. C'est vrai qu'on voit par exemple par rapport en fait à l'Afrique. Donc on vit dans ces contextes où des fois, si les parents sont très demandeurs, t'as vis-à-vis des enfants. Et puis on voit par exemple, c'est des parents qui ont des fois des moyens, hein, même en étant ces retraités et tout. Par rapport à ça, je discutais avec une personne, c'est qui est païenne, qui pendant des années en fait a beaucoup travaillé et puis envoyé beaucoup d'argent en fait à ses parents sans vraiment tenir compte c'est du fait qu'ils avaient besoin ou pas besoin et tout. Et puis aujourd'hui, cette personne a en fait de réelles difficultés, elle n'arrive plus à faire autant qu'elle faisait avant. Ce qui fait que ça lui pose des problèmes par rapport à ses parents. Donc les parents disent « Oui, tu t'occupes plus de nous » et tout ça. Donc cette personne, elle vit un peu, je sais pas, dans la culpabilité, mais par rapport à cette personne-là, elle vit pas. En fait, elle va pas vivre une malédiction, sachant qu'elle a. Je sais pas comment.
Nous avons dit qu'il fallait le faire dans la mesure de nos capacités. C'est parce que l'exemple même que le Seigneur le donne, c'est un exemple qui nous parle d'une manière complète. Il dit : tu as l'argent. Au lieu d'aider ton père, tu ne veux pas l'aider. Maintenant, pour te couvrir, tu dis, j'ai fait de cet argent corban. Donc, j'ai réservé ça pour le temple. Il n'a pas dit que tu manques. Il a dit, tu as. Donc, je l'ai bien dit, on ne devient pas leurs parents. Mais on se rappelle que nous sommes leur production. On se rappelle de ça. Si tu nies cela, tu finiras par nier Dieu lui-même. Oui.
Excuse-moi, pasteur, je voulais dire, mais cette personne-là, vis-à-vis de ce qui est dit là, que...
Mais si elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent. Comment elle va faire ? Elle ne va pas voler.
J'ai une question. Je peux ?
Oui, oui.
Par rapport à ce que tu dis sur l'argent que tu donnes au temple, mais tu ne t'occupes pas de tes parents, est-ce que c'est possible de faire le parallèle avec le parallèle avec la famille, comme il y a des personnes qui disent, une femme qui va dire « je n'ai pas le temps de m'occuper trop de mon mari parce que je dois aller à l'église » ou un homme, de la négligence de la famille, du foyer, que ça soit l'homme ou la femme, ou même l'enfant, l'ado, je sais pas quoi, l'excuse de négliger son foyer ou ce qu'il a à faire chez lui, qui est aussi important, pour dire je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Je sais pas si je suis clair.
Bon, tu es clair, mais c'est pas le sujet. Je répondrai rapidement, puisque c'était tout ça aussi c'est écrit dans la parole qu'il faut s'occuper de sa famille et que c'est ça aussi servir Dieu. Mais comme nous le savons, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu reste souverain. Donc Dieu peut décider, comme ce fut le cas pour le Seigneur, qu'il soit crucifié. Donc, on a dit au Seigneur, mais tu vas laisser ta famille comme ça et te laisser crucifier. Non, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand il peut y avoir des décisions que les gens prennent qui ne sont pas contraires à la parole ou une négligence à la, vis-à-vis de la famille, mais c'est vraiment la volonté de Dieu pour eux en ce moment-là. Donc, c'est pourquoi ça peut être très compliqué. C'est pourquoi je dis qu'on répondra à ça le jour où on arrivera à ce verset-là dans les Épîtres à Timothée. Oui.
Je voulais savoir, en fait, le mot « honneur » veut dire quoi exactement ? Est-ce que « honore ton père et ta mère », c'est leur faire plaisir ou c'est quoi exactement ?
Les considérer avec respect et les considérer dans la position qu'ils ont pour toi. Prééminence, c'est eux qui étaient avant toi. Ils t'ont produit. Les considérer dans cette position-là. C'est quand Dieu met quelqu'un avant toi, c'est qu'il veut que tu considères une certaine position de supériorité. Mais ça ne veut pas dire devenir esclave de la personne. Mais c'est Dieu qui l'a mis avant toi.
Il y a des limites quand même, parce que des fois, il y a des parents qui nous donnent des ordres pour des choses. Des fois, en fait, par rapport à ma vie spirituelle, des fois, mes parents, ils vont, me faire du chantage, par exemple. Et du coup, honore ton père et ta mère, mais la parole de Dieu dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme.
Non, mais la Bible n'a pas dit, obéis à ton père et à ta mère.
Oui, mais
honore. Donc, on n'a pas dit que tu obéis à tout. Tu honores. C'est-à-dire que tu les considères dans la position qu'on leur a donnée d'être avant toi et de te donner une conduite. Maintenant, quand tu as rencontré Dieu, Dieu est au-dessus de tout. On a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Entre la volonté de Dieu et la volonté des humains, la volonté de Dieu reste supérieure. La volonté de Dieu reste au-dessus. Mais ça, c'est écrit dans Actes 5, 29, Actes 4, 19. Actes 5, 29, Actes 4, 19. Tu peux lire. Voilà.
Oui, pasteur, je voulais savoir, honore ton père et ta mère, ok. Mais les familles qui mettent leurs parents dans les maisons de retraite, est-ce que c'est déshonorer les parents, sachant que beaucoup de familles mettent leurs parents dans les maisons de retraite pour se décharger un peu de toute charge, de s'occuper de leurs parents.
Tu as répondu toi-même à la question. Donc la famille, qui le fait dans le souci d'être le moins embêté ? Toi-même, tu as répondu. C'est ça l'objectif. Mais quelqu'un qui n'a pas la capacité physique de s'occuper de son père et sa mère, voilà, et qui veut se faire aider dans une maison de retraite et qui continue à visiter son père et sa mère, moi, je ne vois pas forcément un problème là-dessus. C'est parce que médicalement, physiquement, il ne peut plus. Maintenant, quelqu'un qui le fait parce qu'il ne veut pas des embêtements, il ne veut pas de charge, toi-même, tu as répondu à la question, c'est les intentions sont mauvaises, c'est l'intention qui parle là. Qu'est-ce qui est meilleur pour la personne ? Qu'est-ce qui est bien pour la personne ? C'est l'intention qui va parler dans ce cas-là.
D'accord. Et les familles qui ont, par exemple, des infirmières ou des aides à domicile qui viennent voir les parents, mais qu'eux, ils ne viennent jamais les voir, ils appellent rarement, c'est aussi déshonorer.
Ça, c'est déshonorer les parents, là. C'est la personne qui t'a produit, la personne qui t'a amené au monde. Tu avais 2 ans, tu avais la fièvre, elle ne dormait pas. Donc ça, c'est déshonorer les parents. Et vous savez, on va... J'anticipe sur ce que je devais dire, c'est que on va voir qu'il y a 2 parties de commandement. La première partie concerne la relation entre l'homme et Dieu, et la deuxième partie les relations entre les humains. Et on voit que la deuxième partie est introduite par ce premier commandement. Donc Dieu prend ça plus important que les autres. Donc attention, les parents, on ne touche pas, on honore son père et sa mère, quel que soit l'âge qu'on a. On honore son père et sa mère. Donc, c'est ça qui introduit. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce commandement est lié aussi aux autres qui concernent Dieu. Parce que quelqu'un qui néglige ses parents finira par négliger Dieu lui-même. Si tu manques de respect à ton père, tu finiras pas négliger Dieu lui-même. C'est incontournable. Parce que lui aussi est un parent. Oui. C'est écrit où?
Ah non, je demande, parce que je ne sais pas, justement, je pose la question.
Non, en tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Ok. Oui?
Est-ce que, maintenant qu'on est en Christ, est-ce que ce verset-là, en fait, on peut l'élargir au sens de la famille en Christ, dans le sens où nos frères et sœurs, c'est ceux qui obéissent à la parole, du coup, ceux qui ont l'âge d'être nos pères et nos mères, tout ça.
Mais c'est écrit dans l'épître à Timothée. Paul dit à Timothée, les gens qui sont plus âgés, tu les considères comme des pères, les femmes plus âgées comme des mères, c'est écrit. Au fait, c'est un commandement par rapport à au droit de naissance. Hein, c'est important, les gens qui sont plus âgés doivent être respectés. C'est un commentaire très, très, très important. Et bien aimé, vous savez, les gens qui sont plus âgés, ils sont passés par tout ce que toi, tu y es passé. Donc, ils peuvent te dire, à 50 mètres, il y a un lion. Mais quand tu leur manques de respect, ils se taisent. Bon, le petit, il veut faire le grand, ben on le laisse. Mais ils savent qu'à 50 mètres, un lion va te dévorer. Ils ne vont pas te le dire parce que tu ne veux pas les respecter. Donc, il faut faire très attention, parce que tout ce que toi, tu vis, eux, ils ont vécu ça. Mais quand ils parlent, puisque toi, tu as une certaine taille, tu as de l'argent, tu as une certaine force, tu ne veux plus écouter, ils disent, bon, on se tait, on ne dit plus rien. C'est comme ça que beaucoup de gens sont vraiment maudits et ils meurent très tôt, 50 ans, 45 ans, à cause du manque de respect vis-à-vis des aînés. Ils meurent très tôt, comme ce verset dit. Donc, si tu veux que tes jours se prolongent, il faut respecter les aînés, en particulier les parents. Et c'est le premier commandement, comme Paul dit, qui est suivi d'une promesse. Et c'est ce commandement-là qui introduit la suite des commandements en relation avec l'ordre social. Oui, frère, le verset 13.
Tu ne tueras point.
Voilà, verset 14.
Tu ne commettras point d'adultère.
15.
Tu ne déroberas point.
16.
Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
Voilà. Les gens qui font des petits mensonges, ou bien qui rapportent pas fidèlement les choses. Tu rapportes de manière tendancieuse pour que la personne qui écoute pense telle chose contre quelqu'un. Faux témoignage. Faux témoignage. Donc, il faut, quand on rapporte, qu'on soit vraiment dans l'équité, qu'on explique les choses clairement, pas de manière à influencer les gens. Et le truc qui a battu Paul, verset 17.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Voilà. Donc, finalement, le 17, ça a embêté Paul. Parce que Paul en parle dans Romains 7. Il dit, quand il a lu que la loi dit que tu ne convoiteras pas. Ah! Parce que des gens comme Paul, c'était des gens qui physiquement ne péchaient pas. Donc, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, quand tu lis, c'est écrit dans Exode 20, 17, tu ne convoiteras pas. Ah! Donc, même ta pensée est surveillée. Donc, il était fatigué. Il a dit, ah bon, je capitule. Voilà. Donc et Jésus va nous le dire aussi dans Matthieu 5. Il va dire que quand tu as convoité la femme d'autrui en pensée, eh bien, tu as déjà péché en pensée. Donc, la convoitise donc, est la source des autres péchés qui ont été cités précédemment. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. La convoitise est à la source de tout ça. Donc, Dieu clôture par ça pour dire, voilà. Ça, si nous respectons ça, il y a l'ordre entre nous. Et cependant, il veut que le premier commandement, qui est que lui seul est Dieu, soit observé. Et c'est ça qui va faire que vraiment nous aurons une vraie relation avec lui. Exode 20 est très important. Et surtout l'ordre dans lequel les commandements sont donnés, ça nous montre l'ordre du Nouveau Testament. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, forcément, tu auras la capacité de pratiquer les commandements qui sont liés aux relations humaines. Quand tu n'as plus la bonne relation avec Dieu, ta beauté forcée, tu ne pourras pas pratiquer. Tu feras ça d'une manière humaine, comme les pharisiens. Ils pratiquaient tout d'une manière humaine, ils étaient comme irréprochables. Mais Jésus, qui était Dieu, les voyait. Il leur a dit, mais je vous vois, quand votre âne, votre brebis tombe dans un puits, vous allez chercher. Vous êtes des amoureux de l'argent, vous les pharisiens, vous aimez beaucoup l'argent, vous êtes des cupides. Parce que, pourtant, d'une manière visible, ces gens-là semblaient irréprochables, mais en réalité, ils n'étaient pas en bonne relation avec Dieu. Donc, ils n'étaient pas capables de pratiquer les commandements même qu'on ne pouvait pas soupçonner. Mais comme Dieu voit tout, Dieu voyait qu'ils ne pratiquaient pas. Mais le peuple pensait que les pharisiens étaient forts, mais pas du tout. Dieu voyait qu'ils ne pratiquaient pas. Mais aux yeux des humains, ils étaient irréprochables. Mais voilà. Je vais clôturer par un verset qui me vient à l'esprit. Il est dit, quelque part, c'est Jésus qui le dit, « Car tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. » C'est un verset encore plus fort. « Car tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. » C'est pour rejoindre Exode 20. Parce qu'Exode 20, c'est ça. Exode 20, c'est que Dieu soit ton Dieu. Et tu pourras pratiquer les autres commandements humains. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère. Tu peux bien pratiquer ça que si les 5 premiers commandements sont vraiment en toi. Et Jésus va dire quelque part, « Car tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. » Ça veut dire, bien-aimé, que même quand quelqu'un, ce n'est pas de sa faute, les gens l'élèvent, il commence lui à devenir en abomination devant Dieu. Je m'arrête là, qu'on médite là-dessus. Donc quand tu as un pouvoir quelconque, quand tu as un talent quelconque, fais attention à ce que les gens ne t'élèvent pas. Parce que même si ce n'est pas toi qui t'élèves, tu es en abomination devant Dieu. Bon, peut-être vaut mieux qu'on lise le passage. Hein? Car tout ce qui est élevé est en abomination parce que ça va à l'encontre de Exode 23. Donc, il n'y aura pas d'autre Dieu. C'est un commandement important. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passait quand on voulait adorer les apôtres? Ils faisaient quoi? Ah, ils déchiraient leurs vêtements. Il y a des gens, on les adore. Ah, merci frère. Ah, on vient de t'adorer, tu dis merci frère. Donc, Luc 16, verset 15. Frère va nous lire ça.
Luc chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
Ah. » Donc vous, vous voulez que les hommes vous trouvent grand. Mais attention, ce qui est élevé parmi les hommes devient en opposition face à Dieu. Beaucoup de gens disent, mais non, mais ce n'est pas moi. Moi, je vais faire comment? Je chante bien. Où est ma faute? Quelle est ma faute? Ta faute, c'est que tu n'as pas rendu gloire à Dieu. Ta faute, c'est que tu n'as pas réprouvé les gens qui t'ont élevé. Ta faute, c'est que tu as voulu faire les choses pour que les gens soient contents. C'est ça ta faute. Ce qui est élevé devant les hommes est en abomination devant Dieu. Donc même quand ce n'est pas toi. Donc ça va encore plus loin. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup à dire là-dessus, que le Saint-Esprit nous parle. Oui.
Pasteur, en même temps, c'est les dons, c'est Dieu qui les donne.
Oui, oui.
Pour, c'est le service de l'œuvre de Dieu. Mais comment, en fait, utiliser ça sans pour autant que ces personnes puissent nous élever, sachant que
s'il nous élève, Dieu va nous casser. C'est ce que Paul dit. On est en vase de vase d'argile, nous portons la gloire de Dieu comme des vases d'argile.
Parce que ce n'est pas la personne qui veut forcément qu'on l'élève, en fait. Hein.
C'est ce que je viens de dire, non? Même si ce n'est pas toi qui veux, mais le fait que tu es élevé, c'est là, c'est ce que je dis, que ça va très loin, là. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas t'élever, mais le fait qu'on t'élève, tu deviens en abomination. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est fort.
Mais tu fais pas
que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, mais tu es en abomination. C'est pourquoi Dieu va te coincer. Quand Moïse se retrouve devant la mer Rouge, Dieu veut montrer que c'est lui qui est Dieu, ce n'est pas votre Moïse. C'est vrai que j'ai fait des miracles avec lui, mais là vous êtes bloqués. Il est obligé de crier à moi. Voilà. Quand Moïse n'entre pas en terre promise, Dieu ne veut pas qu'il soit une abomination devant lui. Il préfère qu'il n'entre pas. Comme ça, il le rejoint au ciel. Pas question qu'il entre en conflit avec lui et que ça se coupe là. Voilà. Il préfère préserver son serviteur plutôt que le mettre en conflit avec lui. Même si ça ne vient pas de toi, ça va très loin. C'est pourquoi j'ai dit attention. Attention à vouloir faire les choses pour que les gens disent que c'est bien. Attention, parce que ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. Ce n'est pas un passage que j'avais prévu. On a dû chercher pour trouver ça, mais c'est venu là pour clôturer, pour dire que Exode 20 a ses correspondants dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même, l'apôtre de l'amour, qui nous en parle. Il dit, attention, ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. Donc quand nous servons le Seigneur, faisons comme ça vient, bien-aimés. Faisons comme ça vient. Faisons comme ça vient. Et comprenons aussi que, voilà, des gens comme Paul, Dieu leur a mis une écharde parce que Dieu l'utilisait tellement qu'il fallait quelque chose pour l'empêcher d'être en abomination devant lui. Une souffrance comme ça pour que Paul n'entre pas en abomination devant Dieu, même si ce n'est pas de ta faute, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà l'enseignement que je vais donner pour clôturer. Il n'y a qu'un seul Dieu, que personne ne se risque à prendre sa place. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir. Un jour, nous ne serons pas toujours ensemble, bien-aimés. Mais où que tu sois, quoi que Dieu fasse avec toi, n'ose pas prendre sa place. Voilà ce que je veux dire pour clôturer. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à rester simples et à te laisser ta place de Dieu éternel. C'est ce que tu as dit à Moïse clairement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Même lui-même, pas d'autre Dieu. Car tu le dis aussi que tu punis ceux qui te haïssent, ceux qui osent mettre un homme en rivalité avec toi pour l'élever, ceux qui osent mettre une méthode de statut en rivalité avec toi, alors que toi tu es le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, préserve-nous de tout cela. Que nous restions simples, tout en respectant les aînés, tout en respectant les gens que tu utilises pour nous aider, pour nous faire grandir, que tu restes le véritable et le seul Dieu. Et que chacun de nous s'en souvienne toute sa vie, afin de ne pas avoir à finir comme Moïse, Seigneur. Même si nous savons qu'il est avec toi, il n'a pas eu à entrer, il n'a pas vu l'achèvement de l'œuvre que tu avais prévue, Seigneur. Nous nous attendons à toi, pour nous maintenir dans l'humilité conformément à Jude 24. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.